On n'est pas du monde, version 15 minutes, avec Antoine Malenfant et son invité.
Aujourd'hui à l'émission, Thomas Plouffe nous ouvre le coffre à outils de la pédagogue Charlotte Mason. Agent de milieu dans un organisme communautaire de Limoilou et psychoéducateur, Thomas Plouffe a l'habitude de nous parler d'éducation et c'est pour notre plus grand bonheur parce qu'il connaît ça pas à peu près. Thomas Plouffe, salut!
Salut, salut!
Je te mets toujours beaucoup de pression en introduction de tes chroniques. Je te mets sur un piédestal parce que j'aime beaucoup t'entendre sur les enjeux d'éducation pédagogique. Et là, tu poursuis ta lancée aujourd'hui en nous parlant encore, j'ose dire, de Charlotte Mason, mais sous un autre angle très, très concret cette fois.
Exactement. En fait, pour ceux qui étaient à l'affût lors du dernier épisode, la dernière fois, j'ai survolé qui était Charlotte Mason. Donc, je le répète aujourd'hui pour ceux qui n'avaient pas entendu, là, brièvement, c'est une enseignante britannique de l'époque victorienne, donc la fin de la deuxième moitié principalement du 19e siècle, et qui a été très, très influente à son époque, mais surtout dans le courant de l'école à la maison, là, qu'on ouais. appelle l'instruction à domicile aussi. Pourquoi? Parce que très rapidement, dans son parcours, ben, elle s'est intéressée à l'implication des parents dans l'éducation des enfants. Et elle a révolutionné, on peut dire, toute la façon de voir l'enfant dans l'éducation. Puis ça a eu des répercussions concrètes là, dans les écoles, à travers la création d'écoles, mais à travers aussi, surtout, je le répète, les mouvements d'école-maison mm-hmm. qui s'en sont inspirés, qui s'en inspirent encore aujourd'hui.
Elle est comparée, hein, tu le fais d'ailleurs dans un article qu'on peut lire sur letraitdunionverbe.com dans notre version PDF de la revue d'automne. Elle est comparée, je disais, à Maria Montessori parfois, avec quelques différences quand même.
Il y a des similitudes, c'est-à-dire que comme dans bien des pédagogies alternatives, on va trouver des similitudes, mais il y a aussi des différences, certainement. Mais c'est sûr que fondamentalement, je pense que ce qui réunit beaucoup de pédagogies alternatives, c'est la vision de l'enfant dont j'ai parlé la dernière fois, là, ouais. qui c'est un élément fondamental. Qui était à la base du désir d'aller vers une pédagogie alternative, c'était vraiment de recentrer sur l'enfant qu'on considérait comme une personne qui était entière, qui était en opposition avec à l'époque la vision de l'enfant qui était
futur être humain, mais pour l'instant exactement. Pas grand chose,
un être incomplet, mm-hmm. un être à remplir, un ouais. être comme je disais la dernière fois qu'on préfère qu'on aime voir mais qu'on veut pas trop entendre.
Alors, tu le disais, Thomas Plouffe, la dernière fois, Charlotte Mason, elle a développé, en tout cas, elle a très bien compris, assurément, que l'enfant a en lui cette capacité d'émerveillement. Hein? Je pense que je me trompe pas en disant oui. ça. Comment ça se traduit dans les outils qu'elle a développés?
Oui, Charlotte Mason avait développé...
Oui, excuse-moi, c'est un peu ça l'objet de ta chronique d'aujourd'hui,
exactement,
non?
Exactement, d'aller mm-hmm. plus loin. Charlotte Mason, on peut lui reprocher, ou en tout cas, chose certaine, on peut pas nier le fait qu'elle elle a développé une pédagogie qui est très rigoureuse, puis à la limite, certains diraient très rigide. C'est pour elle. Elle a des outils qui sont très spécifiques, puis il faut s'y accrocher. On peut pas beaucoup déroger de ces outils-là. Mais c'est des outils qui sont pertinents. En tout cas, je les présente, puis après ça... puis vous verrez que c'est pas des outils qui sont toujours très concrets. Le premier outil, ce qu'elle appelle l'outil, qui est plus concret, c'est une catégorie qu'elle a nommée les livres vivants. Pour elle, c'est tout ce qui est ouvrage littéraire. Mais pour elle, ce qui est important dans l'apprentissage de l'enfant, c'est que l'enfant ait en main des livres vivants. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Le livre vivant, pour elle, c'est un livre qui est toujours conçu dans une perspective de créer un ouvrage qui est riche sur le plan littéraire, déjà à la base, qui est surtout principalement narratif. Donc, on essaie de ne pas mettre entre les mains des enfants le moins possible des ouvrages qui sont purement et simplement didactiques.
Ou encyclopédiques, ou des trucs comme ça.
C'est-à-dire qu'une encyclopédie peut être considérée comme un livre vivant du moment où est-ce que la visée de l'ouvrage, c'est vraiment de transmettre une passion, transmettre une connaissance. Ça peut être considéré comme étant un livre vivant, mais pour bien comprendre ce que c'est un livre vivant, mm-hmm. on peut imaginer ce que c'est pas. C'est-à-dire un livre qui serait purement et simplement didactique, donc il y aurait une visée, par exemple, de décortiquer les apprentissages. Pour apprendre, je sais pas moi, l'histoire de la Nouvelle-France, on commence par là et on s'en va là, avec chapitre, avec étape. Puis là, au fur et à mesure, des fois, on a des « saviez-vous que », des bon, qui nous...
Nos au typique manuel scolaire, finalement.
Ça ressemble énormément au typique manuel scolaire.
Alors là, donc, si je comprends bien, un manuel scolaire n'est pas un livre vivant.
Exactement.
Et on n'a qu'à en ouvrir un pour s'en convaincre.
Dépendamment desquels, mais principalement, c'est sûr que Charlotte Mason dirait que c'est un livre qui est sec, voire un livre qui est mort, en opposition avec un livre vivant. Parce que le but, la personne qui a conçu le livre, c'était pas de narrer une connaissance ou de créer de la fiction autour d'une connaissance, c'était vraiment purement de livrer le savoir, donc de dire, de transmettre le savoir, alors que le livre vivant est une autre façon
d'une
de
manière
le reconnaître.
D'une manière mécanique.
Plutôt mécanique,
oui. Ouais.
Okay. Une autre manière de voir si c'est un livre vivant ou non, c'est de voir est-ce qu'il y a une portée générationnelle. Donc, est-ce que c'est un livre qui dure dans le temps, généralement, c'est un bon indice. Là.
Ah ouais.
Ce qui dure dans le temps, mais aussi, tu sais, Charlotte Mason disait que un livre jeunesse, si l'adulte n'a pas vraiment d'intérêt à le feuilleter ou à le lire, c'est pas un livre intéressant pour l'enfant. Donc, on a un bon indice. T'sais, si comme adulte, des fois, on aime replonger dans des ouvrages qu'on lisait en tant qu'enfant puis qui nous touchent encore aujourd'hui, c'est que les principes qu'il porte puis qui font que c'est un bon livre, sont universels.
À la fois les principes, mais aussi la manière dont c'est écrit. Tu t'évoquais les qualités littéraires de l'œuvre d'entrée de jeu. C'est souvent assez escamoté là, dans les livres jeunesse.
Les livres vivants, en fait, là, sont vraiment basés sur ce principe-là. Donc, on veut que ce soit riche sur le plan littéraire.
Alors, premier principe ou premier outil, on peut dire, de Charlotte Mason, les livres vivants.
Les livres vivants. Ensuite, le deuxième outil qui serait intéressant et qui, vous allez voir, recoupe le premier, elle a appelé ça les choses. J'en avais parlé un peu la dernière fois.
Oui.
C'est extrêmement large parce que ça recoupe, en fait, vous allez voir, les choses, c'est à la fois des objets, donc des outils concrets, mais c'est aussi les éléments de la nature, c'est aussi même tout simplement soit des objets de la nature ou ce qu'on rencontre dans la nature. Les choses, en fait, c'est tout ce qui permet à l'enfant de mettre ses apprentissages en contexte. Parce que, ça va revenir avec les livres vivants, pour elle, tous les apprentissages devraient être découverts en contexte. Ce que je veux dire par là, c'est que si, par exemple, on veut apprendre ce que c'était que la Nouvelle-France, bien, on ne va pas décortiquer la semaine puis prévoir d'apprendre ce que c'est la Nouvelle-France le jeudi à 1h. Parce que ce n'est pas en contexte. L'apprentissage doit se réaliser. Ce qu'on fait, c'est qu'on enrichit le contexte de l'enfant en lui lisant, en lui narrant des histoires autour de plein de périodes historiques. Puis, quand l'enfant s'accroche sur quelque chose, bien, il va créer lui-même un contexte qui va nous amener, par exemple, si c'est la Nouvelle-France, à lui présenter d'autres... des objets qui étaient utilisés à l'époque, un artisanat de l'époque. Puis là, on va lui mettre entre les mains les vrais objets, ce qui était utilisé. Ces apprentissages-là vont durer dans le temps parce qu'ils n'ont pas été parachutés par l'adulte à un moment donné dans le cerveau de l'enfant. Ce qui ne veut pas dire que l'enfant ne peut pas acquérir des connaissances quand il est dans ce mode de pensée-là qui est comme sectionné. L'enfant est capable...
D'ailleurs, la plupart des élèves passent leurs examens ministériels avec succès là, relatif, mais avec succès quand même.
Ce que Charlotte Mason dit, c'est qu'à ce moment-là, on est uniquement dans l'apprentissage pur et simple du savoir.
Ouais.
Donc, comment on peut mesurer si on a réussi ou non? C'est dans le long terme. Est-ce que l'enfant s'est passionné d'un sujet? Puis est-ce qu'il est capable de le verbaliser dans ses mots? Donc, les choses, là, c'est ça, ça englobe tout ce qui est matériel d'art, la nature, tout ce qui permet de mettre en contexte un apprentissage, qui vient au service d'un apprentissage. On vient enrichir là, un contexte. Les choses.
Oui, les choses. Donc, premier outil, les livres vivants. Deuxième, les choses, avec tout ce que ça englobe.
Oui,
oui.
Et qui permet d'apprendre en manipulant, là, je l'ai dit aussi.
Ah oui.
Le troisième outil, ce qu'elle appelle un outil, mais qui est un peu dans un autre registre, c'est la narration. Donc, pour Charlotte Mason, pour justement apprendre en contexte, c'est aussi, et pour créer des contextes, on va mettre l'enfant, on va narrer, amener l'enfant à narrer le plus possible ses apprentissages. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que souvent, pour donner un exemple concret, là, l'adulte, il va lire un passage d'un livre ou encore il va réciter un poème, peu importe. Puis après ça, il va demander à l'enfant « Qu'est-ce que tu as compris de ce texte-là? » Puis il va le laisser verbaliser, il va le laisser dire dans ses propres mots l'apprentissage. Donc, ça l'amène à narrer. Ce que ça fait, en fait, là, c'est que ça l'amène l'enfant à mâcher la connaissance puis à la redire dans ses mots. On le sait, là, nous-mêmes comme adultes, où on est capable de voir des exemples dans notre vie de situations où on a été appelé à faire ça. Moi-même, présentement, en train de vous dire ce que c'est que les outils, je suis en train de faire ça, de narrer.
Ouais.
Puis c'est excessivement pertinent pour actualiser les connaissances puis s'en souvenir.
Et les consolider. Hein. Je pense à ma fille qui fait les devoirs avec sa petite sœur et qui lui explique ce qu'elle a vu dans sa journée en maths, maths ou peu importe en français. Là, elle est en train de solidifier ce qu'elle a appris. C'est incroyable.
Exactement. C'est, oui, on le voit. On en voit à l'école. Des fois, là, ils vont faire ça, travailler en duo. Bon, il y a plein d'exemples qui nous viennent en tête. Donc, la narration, c'est ça. Redire, raconter ce qu'on vient de lire ou d'étudier. Puis ça, ce que Mason dit, c'est que dépendamment de l'âge de l'enfant, des fois, au début, avant même de l'emmener dans l'écrit, ça va être uniquement dans l'oral. Donc, on va inciter l'enfant à tout simplement redire dans ses mots. Puis on n'est pas dans la correction. C'est-à-dire, l'important, c'est qu'il dise dans ses mots, donc à sa façon à lui. Puis tranquillement, bien, on va amener l'enfant à narrer, mais par écrit, pour qu'il développe sa pensée aussi par écrit. Donc, tu sais, ça a beaucoup, beaucoup de portée à long terme parce que ça amène l'enfant d'abord à prendre conscience, à développer sa pensée. C'est structurer sa pensée, ça se développe comme ça, dans la pratique. Ouais. Il faut s'essayer. Développer aussi sa pensée par écrit. Puis ça permet par la suite de mieux s'exprimer en public et tout et tout. Mm-hmm. Donc, la narration, un autre outil qui est qui est particulièrement prisé par Charlotte Mason.
Et qui fait écho aussi au livre vivant.
Exactement.
Tu évoquais l'importance de la narration ou de livres narratifs.
Exactement. Puis, tu sais, un dernier point là-dessus.
Ouais.
Ça peut être en opposition. Demander de narrer, ça va être en opposition avec poser des questions qui sont juste de compréhension. Ce qu'on est habitué dans le système habituel, on va lire un texte, puis là, c'était la petite Juliette qui portait un bonnet rouge, par exemple, dans l'histoire. Puis là, on va nous demander spécifiquement à l'enfant
quelle était la couleur
du bonnet de Juliette. Est-ce que cette question-là, vraiment, amène l'enfant à se repositionner par rapport à ce que ça voulait dire, le récit? Bien, ce que Charlotte Mason dirait, c'est que c'est facile pour les enfants rapidement de comprendre ce que l'adulte veut entendre. Donc, il va écrire, même si c'est de la compréhension plus complexe, il va écrire ce que l'adulte veut entendre, mais il n'est pas vraiment en train de se demander qu'est-ce que ça voulait dire, ce que j'ai lu. Donc, la narration permet ça, selon elle. Ensuite, le prochain... T'es-tu prêt pour le prochain?
Ah oui, je suis prêt. Vous autres, êtes-vous prêts, les gars?
Oui.
Sylvain, oui. Je sens Sylvain qui écoute. Hein. Sylvain a des enfants de en bas âge et je pense qu'il est en train de prendre des notes, là, secrètement.
J'anticipe. Ah, ça.
Mais ça, tu sais, je pourrais revenir une autre fois, mais c'est sûr qu'il y a une des choses que Charlotte Mason a dit, c'est que selon elle, les enfants, avant 6 ans, ils devaient pas être placés dans des situations d'apprentissage formel.
Mm.
Pour elle, les enfants, là, jusqu'à 6 ans, donc nous, ce serait jusqu'à la fin de la première année, parfois, dépendamment, ils devraient purement et simplement être dans le jeu puis apprendre par le jeu. Puis après ça, en voyant d'autres enfants en train d'apprendre, ils sont quand même enrichis.
Ouais.
Donc, ça va de soi, mais on les place pas volontairement dans des situations. Donc, faut pas non plus se mettre de la pression. Là. Même au contraire, des fois, faut lâcher le lousse un peu. Un autre outil, ce serait le carnet de croquis ou le carnet de nature. Tu sais, Charlotte Mason, dans l'article qui était publié dans Le Verbe, j'en avais parlé, là, c'est, pour elle, c'était très important d'aller, par exemple, en observation de la nature, mais d'inscrire ses observations dans un carnet, donc de tenir un genre de compte-rendu qui permet, par exemple, puis ça peut être des écrits, ça peut être un dessin de quelque chose, ça peut être un herbier qu'on commence, ça peut être n'importe quoi. En fait, l'idée, c'est finalement de garder des traces des passages qu'on fait dans la nature.
Donc, la classe idéale ou pour ceux qui font l'école à la maison, chaque enfant a son petit calepin et quand il sort, c'est toujours avec un petit crayon de plomb dans sa poche puis il est toujours prêt à rendre compte de ce qu'il observe.
C'est ça. Il est bien équipé avec des crayons de couleur. Des fois, même les enseignants vont apporter de la peinture, par exemple. C'est pas interdit, là. C'est ça. Donc, l'important, c'est qu'il puisse s'exprimer à sa manière puis qu'il laisse des traces, ce qui fait que quand il revient à la maison, ben tout est dans tout. Là. On va lui demander de narrer sa sortie, puis là, il va pouvoir utiliser son carnet de nature. Puis tout ça, comme tu le disais tantôt, ça vient vraiment consolider ce qu'il a vu. Donc, ça ramène tout le temps, puis ça multiplie en fait ces manières de concevoir une seule connaissance, là, t'sais, de savoir par exemple que je sais pas si on est dans la nature, il peut s'il dessine une feuille, il revient à la maison, il apprend que cette feuille-là a changé dépendamment au fil des saisons, il va l'étudier, il va lire un livre là-dessus, il consolide, il enrichit la même connaissance de base pour que ça soit plus global et plus intéressant pour lui.
Est-ce qu'on a le temps pour un petit dernier?
Un autre élément très important pour Mason, c'est l'or, l'importance de l'or. Mais un détail, Mason, pour elle, c'est important de soumettre les enfants à l'or, mais sans pour autant l'étudier pour l'étudier.
Mmh.
Donc, souvent, elle va suggérer dans la journée de tout simplement lire un poème, écouter de la musique, soit d'un compositeur qui serait toujours le même, mais purement et simplement pour la beauté de la chose. Donc, on ne va pas analyser le poème, on va pas le... Parce qu'il faut aussi que l'enfant apprenne à goûter au beau pour le beau, là, pas qu'il soit pas toujours en train de vouloir essayer de le comprendre.
Rationaliser le beau.
Des fois, le beau est tout simplement là pour... Et il faut l'essayer pour voir que les... Tu sais, des fois, on se dit la poésie, tu sais, les enfants. Mais oui, ça touche les enfants. Vraiment, là, ils sont frappés par, sans comprendre du tout pourquoi, ils sont frappés par l'harmonie du poème, la musicalité dans un poème donné. Fait que, donc, c'est ça. Pour elle, l'art, c'est très important, mais c'est quelque chose qui vient donner du sens au beau pour les enfants.
Alors, rappelons, Thomas, que tu prends la plupart de tes informations sur Charlotte Mason sur un blog qui existe sur elle ici au Québec, c'est ça?
En fait, c'est un blog qui est fait par des Montréalais, si je ne me trompe pas, mais qui est une ressource, oui, c'est très, très pertinente. Si vous voulez aller plus loin, parce qu'eux autres, ils prennent toujours, tu sais, imaginons, là, la chronique dure 10-15 minutes ici, là, eux autres, c'est doublé. Là, donc, ils vont plus loin, ils vont plus en détail. C'est très pertinent pour quelqu'un qui voudrait plonger encore plus dans la pédagogie. Un festin d'idées, c'est un blog, c'est aussi un podcast. Sinon, je peux aussi parler d'un livre qui a été écrit par Laura Lafont, qui est une Française, qui a écrit sur le livre s'appelle La pédagogie Charlotte Mason. Il y a deux volumes. C'est très pertinent pour quelqu'un qui voudrait, qui s'intéresserait, par exemple, qui est interpellé par l'enseignement à la maison et qui veut en savoir plus.
Alors, un festin d'idées sur votre moteur de recherche préféré, allez voir ça. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
C'était un grand plaisir.
C'était On n'est pas du monde en version 15 minutes avec Antoine Malenfant et son invité.